Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. New York, le 31 octobre dernier, il est 15h heure locale, 20h en France, lorsqu'un véhicule s'engage sur une piste cyclable et renverse plusieurs passants, tuant 8 personnes, un attentat qui finira par être revendiqué par l'État islamique. Le lendemain, France Inter modifie le programme de sa matinale pour traiter le sujet en longueur. Dans sa chronique, juste avant 9h, l'humoriste Nicole Ferroni s'interroge sur la pertinence d'une telle déprogrammation. Nicolas Demorand l'interroge. Il vaut mieux ne pas en parler ? Non, lui répond-elle. Je me faisais la réflexion de ce que pouvait être la portée d'en parler aussi souvent. Aussi souvent qu'il y a des attentats, conclut Demorand, mais on le fait en essayant de réfléchir aussi. Alors cet échange est intéressant parce qu'il résume un des principaux défis auxquels sont confrontés les journalistes en cas d'attaque terroriste. Trouver le bon dosage, la bonne distance pour évoquer une actualité sans faire la promotion de ceux qui la provoquent. Sachant que quand l'urgence est là, que l'émotion est forte, il est d'autant plus difficile de prendre du recul. Depuis bientôt 3 ans, la presse française est confrontée à ce genre de situation. Alors réagit-elle toujours de la même manière ? Ou dans une forme d'improvisation, les médias ont-ils tiré les leçons des attentats ? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce soir en compagnie de 4 invités, 4 journalistes. À commencer par vous, Leïla Kouel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la rédactrice en chef adjointe du Bondy Blog. Vous avez notamment travaillé auparavant sur des chaînes d'information continue, LCI. Vous y étiez d'ailleurs au moment des attentats de Nice en juillet 2016, également ITélé. Pour discuter avec vous, Éric Métou, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à l'Express, directeur adjoint de la rédaction, vous êtes en charge du numérique. Vous avez écrit, évoqué les attentats de Nice juste après cette attaque. Les médias doivent-ils parler du terrorisme ? C'était des billets que vous aviez publiés sur... ou non d'ailleurs, oui, c'était le titre exact, vous avez raison, sur votre blog. Troisième invité, Frédéric Barrère, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Directeur de la rédaction de France Culture et France Musique. Vous avez été correspondant pour Radio France à Jérusalem de 2006 à 2011, je le précise, parce que je pense que ça sera aussi intéressant de voir avec vous comment les médias israéliens peuvent traiter de cette actualité terroriste. Et puis notre quatrième invité est en duplex des studios de la RTBF à Bruxelles. Il s'agit de Jean-Paul Martoz. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chroniqueur au journal Le Soir, professeur de journalisme à l'Université catholique de Louvain et vous avez publié début 2017 un rapport pour l'UNESCO, Les médias face au terrorisme, manuel pour les journalistes. C'est un manuel qui a pour grand intérêt de ne pas se limiter justement au cas belge ou français, mais d'avoir une dimension internationale. Et c'est à vous, Jean-Paul Martoz, que je voulais poser la première question. Les attentats à chaque fois provoquent un fort traumatisme et sont toujours des événements évidemment au caractère imprévisible. Est-ce que vous avez néanmoins l'impression qu'avec la répétition de tels événements, les médias sont peut-être mieux préparés aujourd'hui à réagir ou bien est-ce qu'on est toujours plus ou moins dans une forme d'improvisation ?
Mais je pense que si l'on voit ce qui s'est passé en France entre le 16 janvier et le 13 décembre 2015, on a pu voir qu'il y avait, me semble-t-il, une amélioration de la manière dont la presse française a abordé les attentats et donc qui a eu la leçon a été tirée par exemple du 7 janvier notamment par la télévision et la manière de relayer l'information en direct. Et je pense que plus généralement, j'ai participé à pas mal d'ateliers, de colloques un peu partout dans le monde ces derniers mois autour d'ailleurs du manuel et j'étais frappé quand même par le sérieux avec lequel les journalistes voulaient aborder cette question, ils étaient extrêmement sensibles aux critiques qui s'étaient portées contre eux. Et ils étaient aussi certainement préoccupés par l'improvisation qui avait régné très souvent jusque-là. Et donc dans un certain nombre de rédactions, des débriefings ont lieu, des analyses de la couverture a lieu, mais aussi plus largement, des systèmes ont été mis en place, à la fois pour être certain que le système de commandement, par exemple, dans les rédactions fonctionne, qu'on soit très clair sur les règles éthiques élémentaires, notamment dans la gestion du direct, mais aussi dans l'utilisation des images, que les règles aussi soient bien établies pour traiter des réseaux sociaux. Donc oui, je pense que malheureusement, la succession des attentats a provoqué dans un certain nombre de rédactions de par le monde une plus grande attention aux questions éthiques de cette couverture.
Est-ce que ça a été le cas à l'Express, Éric Métou ?
Oui, bon, je dirais pas éthique, je dirais déontologique. C'est-à-dire que c'est une façon de travailler au-delà de la morale. On s'adresse à des lecteurs, on a des responsabilités qui sont pas nécessairement des responsabilités morales, mais professionnelles. Et on est tenu de rendre compte de manière détachée, neutre, c'est pas tout à fait le terme, mais en tout cas de pas nous impliquer de manière trop rapide. Il faut faire très attention avec des sujets comme cela, comme effectivement ça avait été le cas notamment des chaînes d'infos, mais aussi d'internet dont moi je m'occupais. Alors sur internet c'est un peu différent parce qu'on a un peu plus de recul que sur les chaînes d'infos où il faut remplir. Nous on n'est pas obligé de remplir. On suit l'événement, on n'a pas le droit d'une certaine manière d'être trop en retard, mais s'il se passe rien, il se passe rien, et on n'est pas obligé d'aller chercher par exemple des experts ou des simili-experts comme il y en a beaucoup sur les en tout cas il y en a eu beaucoup sur les chaînes d'info.
Est-ce que après, en tout cas vous avez l'impression que confronté à l'urgence, donc à l'express, votre approche des événements est différente aujourd'hui? Imaginons, on va évidemment pas le souhaiter, mais qu'il y a un attentat à nouveau en France d'une ampleur de ce qu'on a pu connaître au moment du Bataclan, Charlie Hebdo ou à Nice, est-ce qu'il y a des protocoles, par exemple, plus précis qui sont
des dispositifs, c'est-à-dire que maintenant on sait, ne serait-ce que pour couvrir correctement l'événement, quoi qu'il arrive, on peut mobiliser les équipes, les rédactions, des spécialistes de nos propres équipes, et puis nous-mêmes on commence à connaître le sujet un peu mieux qu'on le connaissait. Mera, les derniers attentats de cette ampleur, ça commençait à dater, donc on avait un petit peu plus de mal à ne serait-ce que trouver les contacts dans la police, rechercher des informations. Je pense qu'on parlera de la banlieue tout à l'heure et de la façon dont il faut en parler, parce que c'est un sujet important. Tout ça, on l'a appris au fur et à mesure, effectivement, hélas, de la multiplication des attentats.
Leïla Kouel, vous qui avez travaillé donc dans des chaînes d'information continue, je rappelle LCI et ITL, est-ce que vous avez eu le sentiment que justement c'était des rédactions qui étaient plutôt bien préparées pour faire face à de tels événements?
Bien préparé, mais en même temps, on était sous la contrainte du temps et de l'urgence constamment. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier le facteur des réseaux sociaux qui a pris de plus en plus de place dans le traitement des informations. On est face en fait à une sorte de schizophrénie de la part du public qui attend à la fois que les médias répondent vite, que les médias traitent vite cette information, puisqu'elle est déjà sur les réseaux sociaux. Donc ils s'attendent à la voir sur BFM TV, sur leur télévision en tout cas, sur les télés ou sur LCI. Et puis on a d'un autre côté ceux qui nous disent ne soyez pas trop pressés, prenez du recul, prenez du contexte et apportez-nous de vraies infos, des infos utiles. Donc il y a cette schizophrénie auquel la profession est confrontée. Et puis c'est vrai que dans l'urgence, on ne prend pas le temps, en fait, malheureusement, un temps qui est essentiel pour se poser la question de l'utilité de l'information. On n'a plus le temps de prendre ce temps, malheureusement.
Est-ce qu'une rédaction comme la rédaction de France Culture que vous dirigez, Frédéric Barrère, ne peut pas être confrontée finalement au problème inverse? C'est-à-dire qu'on peut avoir des médias qui sont des médias d'information en continu, qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui ont peut-être du mal à réfléchir dans l'urgence. A priori, sur France Culture, c'est un petit peu l'inverse. On n'est pas une chaîne d'information en continu. On réfléchit beaucoup, mais c'est peut-être plus compliqué justement d'être dans une réaction d'urgence. Est-ce qu'on réfléchit trop parfois?
On n'est pas une chaîne d'information continue, mais on est une chaîne d'information avec nos rendez-vous d'information qui rythme la journée, que vous connaissez encore le journal de 18h. Voilà, mais c'est tout à fait vrai ce que disaient Leïla et Eric. Il faut pas s'emballer, mais d'un autre côté, il faut prendre le temps aussi un peu d'analyser, de comprendre aussi ce qui se passe, Et puis, d'un autre côté, il faut informer les gens, les auditeurs ou les téléspectateurs ou les lecteurs sur les sites aussi aujourd'hui veulent savoir. Donc, il faut trouver la bonne mesure entre ce qui se passe, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut dire, ce qu'on retient parce qu'on n'en est pas sûr, parce qu'il faut encore vérifier, et puis informer, parce qu'avant tout, on est là pour informer, pour dire ce qui se passe. En fait, c'est quand même un choc, ces attentats, c'est quand même pas banal, quoi. L'exemple dernier, alors c'est pas un attentat, mais vendredi dernier, 17h20, un urgent de l'AFP, puis de l'agence interne de Radio France, puis Reuters, nous dit, voilà, une voiture fonce sur des passants à Blagnac, près de Toulouse. Difficile de vérifier tout de suite. On appelle nos correspondants. On a un bureau, heureusement, et on apprend qu'il n'est pas fiché S, mais qu'il a foncé délibérément sur un passage piéton, sur trois personnes, qu'il les a blessées gravement, en tout cas une. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas un attentat, mais on le donne, c'est une information. On est à Toulouse, la ville où Mohamed Merah a commis des atrocités. On est à la veille du 13 novembre, les commémorations qu'on a vues aujourd'hui. Donc effectivement, on donne des informations en source, on dit ce que l'on sait, on n'en dit pas plus. Mais je pense qu'il faut le donner.
Qu'est-ce qu'il vous a dit sur cette information, justement?
Sur des sujets comme ça, on est bien mieux préparé qu'on l'était à une époque. Alors certes, évidemment, tout de suite, on pense à un attentat quand il se passe quelque chose comme ça. Enfin, moi, je pense, il y a cet événement-là, mais il y a la tuerie de Las Vegas, où immédiatement, on a pensé à un attentat islamiste, ouais. On ne savait pas. Ouais. Donc, on est extrêmement prudent maintenant sur... On attend des confirmations très claires. En plus, on s'est fait avoir plusieurs fois sur des sujets comme ça, où on est allé un peu trop vite, les chaînes d'infos, et de bonne foi, hein, parce que la police allait trop vite, parce que nos sources, c'est toujours pareil, c'est les autorités. On n'a pas, nous, accès, ou très rarement accès, au lieu des attentats. Donc, nos informations, elles viennent de la police. Donc, on s'est aussi fait avoir parce que la police allait trop vite, parce qu'ils avaient conclu trop vite à des attentats et que c'était pas le cas. Après, en plus, qui devient très compliqué, c'est que on peut pas comparer. C'est pas tout à fait de même nature ce qui s'est passé au Bataclan, par exemple, et ce qui s'est passé à Marseille, où très visiblement c'est un type plus ou moins déséquilibré qui a saisi cette espèce d'occasion qui est le l'islamisme ambiant pour donner corps hélas à sa névrose et qui a été ensuite récupéré par Daesh. Donc ça aussi il faut qu'on fasse des différences avec ça. Et s'il y a multiplication des attentats aujourd'hui, c'est aussi à cause de ça, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus qu'on donne nous trop d'importance à ces histoires-là parce que ça incite d'autres à faire la même chose.
Alors j'allais justement aborder cette question avec vous quatre, je vais peut-être passer du côté de Bruxelles avec vous Jean-Paul Martos, justement sur la publicité qui est donnée aujourd'hui à ces attaques terroristes ou à ce qu'on imagine peut-être d'attaques terroristes. Est-ce que là aussi vous avez vu une évolution, en tout cas une réflexion sur le sujet de la part de journalistes se disant peut-être que finalement à trop donner faire de publicité de ces actes, à trop donner d'audience à ces attaques, on en favorise peut-être de nouvelles.
Mais en fait, pendant quelques années, j'avais l'impression que les journalistes, du moins ceux qui m'entourent, étaient impressionnés par la fameuse phrase de Margaret Thatcher qui avait dit la publicité est l'oxygène du terrorisme, et donc d'une certaine manière craignaient de trop en faire parfois, et donc avait du mal à exprimer pourquoi une information solide, complète, donc parfois abondante, était essentielle pour que la presse puisse servir, puis jouer son rôle d'ancre, si j'ose dire, comme un bateau qui est secoué par la tempête, et de servir de référence pour l'opinion publique. Et je pense que j'ai l'impression que on arrive à une prise de conscience d'un certain équilibre entre, d'un côté, en faire trop et donc servir de mégaphone aux terroristes, et d'un autre côté, cette espèce de pression permanente qui est exercée sur les journalistes de dire que vous en faites trop, vous exagérez. Et je pense que les journalistes doivent vraiment assumer de manière très, très responsable, mais très forte aussi, leur fonction d'informer et ne pas se laisser impressionner ni par ceux qui les accusent d'en faire trop, ni par ceux qui estiment qu'il faudrait parfois même ne pas parler de certains attentats. Je pense que c'est vrai, pas mal d'études montrent qu'il y a des phénomènes de répétition, si on parle trop, qu'il y a des phénomènes d'héroïsation qui passent par une certaine présentation. Mais je pense que les journalistes doivent savoir raison garder et bien établir finalement leur fonction spécifique qui est précisément d'être un référent, d'être une référence finalement pour l'opinion publique.
Cette question de la responsabilité du traitement journalistique sur d'éventuelles répétitions de ces actes terroristes, est-ce que vous considérez que c'est une question que les journalistes, que les médias doivent se poser, Leïla Kouel?
Je pense qu'ils se sont posé cette question et je pense vraiment que la profession a aujourd'hui pris conscience du rôle qu'elle avait, de son rôle à jouer dans le combat contre la peur. Peur qui peut être alimentée par, comme on le disait tout à l'heure, des informations qu'on a tendance à surjouer, j'allais dire, en tout cas présenté comme alarmiste. Mais aujourd'hui, la profession a vraiment pris en compte ces éléments-là et essaye de juguler la propagation de la peur. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué parce qu'il y a les réseaux sociaux qui font leur rôle aussi dans cette alimentation de la paranoïa. Et puis, il y a, on parlait des actes terroristes, il y a Daesh qui a sa propre agence de communication et qui peut très bien communiquer. Elle a plus besoin des médias, en tout cas aujourd'hui, pour communiquer sur ces actes terroristes et pour propager ce sentiment de peur. Donc,
La question de communiquer ou pas, d'ailleurs, d'informer ou pas sur ce qui se passe, est-ce qu'elle se pose, à votre avis ?
Oui, je pense qu'elle se pose. Je sais que certains médias ont décidé de ne pas révéler l'identité, ont fait le choix de ne pas révéler l'identité des terroristes, de ne pas révéler leur nom, de ne pas donner leurs photos. Certains n'aiment même pas de donner des éléments de leur vie passée, leur parcours. C'est un choix qui peut être contesté parce qu'on a aussi, il faut le prendre en compte, le discours qu'il y a en face du public, de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous suivent, de ceux qui nous écoutent. Un public qui est de plus en plus méfiant vis-à-vis des médias. Et donc, vouloir cacher ces informations-là, enfin, ça peut être pris comme une volonté de cacher ces informations-là, ça peut participer au sentiment de, voilà, les médias nous cachent des choses, les médias ne nous disent pas toute la vérité. Donc, c'est à double tranchant.
Votre position, Frédéric Barrière, sur ce sujet, est-ce qu'il faut donner les noms, par exemple, voilà, des terroristes ?
Je suis totalement d'accord avec vous et totalement contre l'anonymisation des terroristes. En tout cas, pour le nom et pour une photo, style photo d'identité, et non pas une photo à la gloire de tel ou tel individu, parce que c'est une information. Le nom, la photo, c'est une information. Anonymiser les terroristes, non, il y a un acte qui est commis, il faut dire ce qui s'est passé, c'est une horreur, c'est je le redis, c'est pas banal, un attentat, et puis pardonnez-moi, mais des attentats, il y en a eu beaucoup en Europe, il y en a eu beaucoup aux États-Unis, il y en a eu beaucoup à Londres, en France, un peu partout, il y en a aussi énormément en Irak, en Syrie, en Afghanistan, il n'y a pas BFM TV ni France Info pour faire de la publicité, une sale publicité autour de leurs actes. Donc moi, je crois que l'anonymisation, c'est enlever une information. Je pense que ça n'a pas lieu, ça n'a pas cours.
Enfin, je disais que vous avez été en poste pendant plusieurs années à Jérusalem, donc en Israël. Frédéric Barrère, comment est-ce que les médias israéliens traitent ces questions-là, justement ?
Écoutez, là, tout le pays est pris d'une frénésie lors d'attentats. Donc les médias, ils couvrent bien évidemment l'acte terroriste en lui-même, que ce soit à Jérusalem ou ailleurs dans le pays. Il faut savoir que quand un attentat se commet, quand un attentat a lieu, parfois on l'entend parce que c'est pas très grand. Donc parfois on l'entend et le réseau téléphonique est tout de suite saturé puisque les gens prennent des nouvelles et les personnes proches du lieu d'attentat donnent des nouvelles. Donc on ne peut plus. Après la police, l'armée arrive. Il y a des gens de la sécurité un peu partout dans la ville, surtout en période tendue, qui essaient tant bien que mal de retenir la population. Mais c'est un peu une frénésie qui s'empare non pas que des médias, mais du pays tout entier. Voilà. Alors bien sûr, on donne les photos, on communique sur les victimes, on communique sur le terroriste, on communique sur l'action de représailles qui est ça fait la une pendant plusieurs jours. Et puis après, il y a tout de suite des manifestations. Voilà, de vengeance, qui appelle à la vengeance et qui appelle au plus bas sentiment humain de vengeance et de représailles.
Éric Métou, à partir du moment où les journalistes ont des informations qui sont des informations vérifiées, ils ont un devoir de les communiquer, de les publier ?
Avec responsabilité,
je pense notamment justement à la question du nom des terroristes, de leurs photos.
Le nom, il y a une autre raison pour donner les noms des terroristes, c'est que ces gens-là ne sont pas des purs esprits désincarnés qui viennent de nulle part. C'est-à-dire que les noms, les photos, les parcours, c'est extrêmement important. Regardez le procès d'Abdelkader Mera, c'est pas simplement une catharsis pour les victimes, c'est surtout qu'on a appris, mais énormément sur le fonctionnement, c'est-à-dire d'où il venait, pourquoi il a fait ça, c'était quoi son environnement familial, son environnement social, son environnement religieux. C'est extrêmement important. Si on veut combattre le terrorisme, ce qui n'est pas notre rôle, hein, c'est pas le rôle des journalistes de combattre le terrorisme, mais si en tout cas on veut donner à nos lecteurs, nos auditeurs, des armes pour comprendre, et donc pour eux lutter contre le terrorisme, il faut qu'ils sachent ça. Et pareil pour les victimes, c'est-à-dire que les gens qui sont morts à Nice, c'est pas c'est pas des morts comme ça qu'il y a sur du papier. C'est des vrais gens, c'est des familles qui sont endeuillées. Il faut qu'on en parle et qu'on en parle et qu'on en parle encore. Et ça, là-dessus, moi, je suis non seulement.
Qu'on en parle, qu'on montre les photos aussi, comme on l'a refait aujourd'hui.
Vous, ouais. Mais je trouve que la position des médias qui aujourd'hui disent qu'ils ne citent pas les terroristes, c'est une hypocrisie. Enfin, moi, ça me choque. Ma pratique professionnelle, mais en tant que citoyen aussi.
Vous y voyez aussi de l'hypocrisie, Jean-Paul Martoz ?
De l'hypocrisie, je ne sais pas. En tout cas, je pense que la fonction du journalisme, c'est d'informer. Et donc, il me paraît aberrant de ne pas citer les noms des terroristes, il me paraît aberrant de ne pas montrer les photos, dans la mesure où, comme l'a dit un des intervenants, ça ne contribue pas à leur héroïsation. Non, on a une fonction d'information et celle-ci ne passe pas par la suppression des noms ou des photos.
Et si les autorités publiques demandent aux journalistes de ne pas publier certaines informations, quelle doit être justement la position des médias en la matière, Jean-Paul Martos? Vous évoquez la difficulté à avoir une position neutre quand ce genre d'événement terrible se produit, parce qu'il y a d'abord peut-être déjà un élan patriotique qui se crée dans tout le pays et les médias auront du mal à s'en abstraire.
Mais je pense qu'il est important de tenir compte évidemment de la fonction de chaque institution au sein d'une démocratie et qu'à un certain moment, il est important que les journalistes...
Ah, alors on a perdu Jean...
De côté.
Jean-Paul Martos.
Pardon ? Oui, est-ce qu'on m'entend ?
Ça y est, on vous a récupéré.
Oui, ça va. Ouais.
Non, on vous perd à nouveau.
Je pense... Ah, bon, je continue à parler, je ne sais pas si on m'entend encore, oui ?
C'est bon, vous pouvez y aller.
Oui. Non, je pense qu'il est important lorsqu'il y a un attentat ou lorsqu'il y a des opérations de sécurité, par exemple, de bien faire la part des choses, que d'un côté, les journalistes, leur rôle n'est pas d'entraver les services de secours, n'est pas d'entraver les services de sécurité. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Bruxelles, lors du fameux lockdown, c'est-à-dire lorsqu'il...
Alors c'est assez compliqué. Je pense qu'on va peut-être essayer de rétablir une liaison en essayant de vous rappeler, puis on va vous récupérer parce que c'est un petit peu haché là pour l'instant. Jean-Paul Martos, je vais poser exactement la même question à Frédéric Barrère, à Leïla Kouel et à Eric Metou sur cette difficulté, c'est-à-dire à rester neutre dans le cas d'attaque terroriste, c'est-à-dire où on peut considérer aussi que la presse peut aussi être une cible, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Comment rester neutre dans un cas comme celui-là? Comment ne pas peut-être faire le jeu des autorités, peut-être. En tout cas d'un élan patriotique, Leïla Kouel?
Parfois, je pense que c'est presque vital même qu'un média soit neutre. Je pense par exemple aux attentats à l'hypercachère, où là, il était question de vie humaine. Délivrer certaines informations, parfois, faut se poser la question du temps, en fait, du temps où on la publie, enfin, plutôt de l'utilité de la publier à un moment précis. Il faut se poser la question de l'utilité aussi de cette information.
Ça, c'est au moment où les faits ont lieu. Mais après, on peut considérer qu'une fois que les faits ont eu lieu et qu'on est quand même toujours dans un climat de lutte contre le terrorisme, est-ce que ça veut dire qu'il faut que le journalisme pur reprenne ses droits et que toute action qui est menée au nom de cette lutte contre le terrorisme doit être passée au crible, justement, du travail journalistique?
Oui, une remise en question, une remise en contexte, plutôt des clés de compréhension aux auditeurs, aux lecteurs, aux téléspectateurs. Je pense que oui, c'est utile pour comprendre un acte terroriste.
Ouais. Sauf que c'est difficile, Frédéric Barrère, d'échapper à la fois à la pression politique et puis aussi peut-être à la pression du public. On l'a bien vu justement avec le procès d'Abdelkader Merah dernièrement. C'est-à-dire c'est compliqué d'échapper à ces sujets extrêmement passionnés.
C'est vrai. Après, vous parliez expliquer, comprendre. Je suis pas convaincu sur un acte terroriste qu'on puisse l'expliquer, peut-être le comprendre. En tout cas, pas le comprendre. Et voilà, j'ai pas tout à fait cette position là-dessus. Après, je voulais revenir sur ce que vous parliez de l'hypercachère, parce que je trouve que c'est très intéressant ce qui s'est passé à la fois à Porte de Vincennes et à la fois à Dammartin en Gouëlle. On nous a reproché d'avoir dit que l'assaut était donné à Dammartin en Gouëlle et que le Coulibaly, le terroriste de l'hypercachère, pouvait l'entendre, puis d'autres. C'est vrai, il aurait pu l'entendre, on est un peu bloqué là-dessus, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut faire très attention à ça. On a beaucoup réfléchi à la façon effectivement de retenir un peu une information, de répondre aux demandes de la police aussi, pour ne pas gêner une enquête, ou encore pire, une action en cours. Mais d'un autre côté, il y a les réseaux sociaux qui, eux, ne sont pas soumis... qui ne sont pas soumis aux règles et aux demandes de la police. L'information, on la maîtrise plus tout à fait, nous. Vous aviez raison, on la maîtrise plus tout à fait. Elle nous échappe par les réseaux sociaux.
Et puis elle échappe aussi peut-être parce qu'il y a un problème de connaissance aussi de ces questions de terrorisme. Finalement, il n'y a pas de formation particulière avec Metou. C'est compliqué en tout cas d'être en mesure de jauger les informations qui sont données finalement dans le cadre de la lutte antiterroriste, non ?
Sur le cas de l'hypercachère, je pense que je parle de manière collective, parce que nous, on n'avait pas l'information, et en tout cas, on l'a donnée plus tard, mais on a fait une erreur, et on a appris de cette erreur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un cas de figure se reproduit de cet ordre-là, on va retenir l'information. Après, on ne va pas la garder définitivement, il y a un moment où il va falloir qu'on la donne, parce que c'est notre boulot. Mais là, on est dans la responsabilité. Effectivement, si le travail qu'on fait, si l'information est au prix du risque de vie humaine, on va pas le faire. Et on n'a pas besoin de la police pour nous le dire. Et on est maintenant devenu, en tout cas, suffisamment lucide là-dessus pour pas faire ça. Je pense que le travail qu'on doit faire derrière, là, je suis pas tout à fait d'accord avec tout. C'est pas comprendre le terrorisme, mais il faut qu'on explique d'où ça vient. Enfin, ces gamins, ils ont 18, 19, 20, 25, 30 ans. Ils sont français, ils sont nés chez nous. Ils sont pas devenus comme ça d'un seul coup terroristes parce que une humiliation. Il y a un terreau derrière tout ça. Et si on fait pas ce travail d'aller chercher pourquoi est-ce que il y a ce terreau, pourquoi est-ce que ces gamins sont devenus des terroristes, pourquoi est-ce que leur nirvana c'est d'aller se faire éclater dans une salle de concert avec une Kalachnikov. Enfin, c'est invraisemblable. Si on arrive, et c'est pas simplement parce qu'ils sont fous. C'est trop facile. Donc il faut qu'on explique derrière d'où ils viennent, comment ils sont manipulés, mais pourquoi ils sont manipulés et qu'est-ce que la société française a fait comme erreur pour qu'on arrive à ce que des enfants français qui sont nés en France, qui ont des écoles, etc., arrivent à se faire manipuler. Ça, c'est extrêmement important.
Qu'est-ce que la société française a fait comme erreur et peut-être qu'est-ce que les journalistes français aussi ont fait comme erreur d'appréciation pour ne pas avoir vu venir ces phénomènes, Frédéric Barrère ?
Je crois que ce sont les terroristes les premiers responsables de leurs actes, de leur horreur. Je pense que c'est eux les premiers responsables, hein, pas la société française, pas le chômage, pas le malaise dans le banlieue. C'est vrai qu'ils existent.
C'est pas un problème.
Non, mais voilà, je pense que c'est eux les premiers responsables.
Mais franchement, la question que je me pose, c'est-à-dire que me dire que des enfants qui ont l'âge de ma fille, aujourd'hui, leur seul but dans la vie, c'est de prendre une Kalachnikov et d'aller tirer sur des gamins qui ont le même âge dans une salle de concert. Je me dis, c'est pas simplement un problème. Ils sont pas nés comme ça. Et ils sont devenus comme ça. Comment ils sont devenus ?
Parce que c'est incompréhensible, parce qu'on ne le comprend pas.
Oui, mais ils sont. Je ne dis pas que c'est la société française. C'est un ensemble de facteurs, et c'est notre travail à nous de travailler là-dessus et d'aller faire. Alors, des universitaires aussi, mais aussi des journalistes.
Qu'est-ce que vous en pensez, Léa Kouel ?
Ça me rappelle. Il me semble qu'un ancien premier ministre avait dit commencer à expliquer, c'est justifier. Moi, je suis totalement pas d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, notre rôle de journaliste, c'est apporter du recul par rapport à ces informations-là pour mieux comprendre en fait les parcours de vie et les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui un gamin qui a grandi, un voisin presque, s'explose aujourd'hui dans une salle de concert ou devant une terrasse de café. C'est notre rôle en fait d'expliquer, d'apporter ce contexte-là en tant que journaliste. C'est ce qu'on doit faire.
Jean-Paul Martos, je crois qu'on vous a récupéré cette fois au téléphone. Voilà, vous nous entendez bien. Voilà, ça a été un petit peu compliqué.
Oui, j'ai raté un petit peu une partie de la discussion, mais voilà, je suis nouveau là. Oui.
Voilà, on évoquait en tout cas la responsabilité ou pas, en tout cas des journalistes, à essayer d'expliquer les phénomènes terroristes en comprenant peut-être aussi le parcours de ces gens qui commettent de tels actes. Je voudrais citer un extrait justement du rapport que vous avez publié pour l'UNESCO et qui dit ceci. La capacité à répondre à des événements soudains dépend du temps qui a été investi dans une politique rédactionnelle ouverte à la diversité. Elle consiste par exemple à engager des journalistes issus de l'ensemble des communautés qui forment la société, de couvrir banalement les communautés au lieu de ne s'y rendre que pour informer sur des incidents qui risquent de les résumer à un agrégat de coupables ou de victimes. Pourquoi est-ce que vous faites un rapport entre finalement donc cette question du terrorisme et la représentation de la diversité dans les médias ?
Bon, c'est une suggestion parmi toute une série de suggestions dans ce manuel. En fait, c'était une manière de rappeler que les journalistes, pour comprendre le phénomène terroriste, pour comprendre d'autres phénomènes d'ailleurs, devaient avoir une rédaction qui soit la plus ouverte possible, ce qui ne suffit pas nécessairement d'appliquer à la lettre ce qui est dit dans ce passage que vous avez cité, mais c'est important finalement d'avoir dans la rédaction des personnes qui ont leurs entrées dans toute une série de milieux auxquels est associé le terrorisme. Et je crois que c'est fondamental de pouvoir disposer de ce genre de personnes. Ce qu'on a vu par exemple en Belgique ces dernières années, et notamment à l'occasion des attentats de l'année dernière, il y avait quand même extrêmement peu de journalistes qui connaissaient la situation dans la fameuse commune qui a été stigmatisée, Molenbeek par exemple, alors que c'est un phénomène qui est bien plus large que cette commune-là. Alors pas mal de gens sont tombés dans un peu dans le panneau de se focaliser sur une seule commune de la ville de Bruxelles, alors qu'il y avait en Belgique d'autres régions qui connaissaient un certain nombre de caractéristiques semblables. Et donc je pense que par là je veux dire qu'il est extrêmement important d'investir du temps dans la connaissance de l'ensemble de la société, sans stigmatisation évidemment. Justement, on ne stigmatise pas lorsque on fait ce travail de connaissance qui dépasse cette brusque ruée sur une commune, par exemple, où évidemment chaque fois qu'un journaliste venait, c'était une forme de stigmatisation. Donc, je pense que c'est fondamental de repenser la manière dont on couvre la société en général. Alors, le terrorisme est pour ça un exemple ou une occasion de le faire. Je ne lis pas évidemment, je ne lis pas évidemment la question de la diversité au terrorisme, au contraire. Mais je pense que c'est fondamental que les journalistes réinvestissent du temps dans un journalisme en long cours où on s'immerge dans des sociétés. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour la situation à l'étranger lorsque certains disent on n'a pas vu venir l'État islamique, par exemple, eh bien c'était dû aussi en partie par un sous-investissement de nos rédactions dans des conflits qui étaient extrêmement éloignés, qui semblaient tellement éloignés de nous que finalement il n'y avait apparemment aucune urgence. Donc c'est un peu dans cette philosophie-là que je veux exprimer.
Voilà, donc mieux connaître aussi certains terrains pour à la fois mieux comprendre ce qui s'y passe et aussi mieux lutter contre les clichés. C'est justement ce à quoi s'emploie le Bondy Blog, Leïla Khoui, dont vous êtes la rédactrice en chef adjointe. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que de ce point de vue-là, les choses ont changé ?
Le traitement des médias des banlieues, moi je trouve vraiment malheureux qu'on s'intéresse aux quartiers populaires sous le prisme du terrorisme. Quand il y a des actes terroristes, on va balader notre caméra, notre micro dans les quartiers populaires. Ça me met très mal à l'aise. Et ce qui vient d'être évoqué, ça me met mal à l'aise également. Je trouve que c'est maladroit, en fait. On est les premiers à dire qu'on veut plus de diversité dans les rédactions. Ça, c'est une chose et je suis complètement d'accord. Mais vouloir de la diversité pour mieux comprendre les terroristes, je vois pas le rapport. Parce que, ça peut être nos voisins. Certains terroristes venaient effectivement des quartiers populaires, mais y mettre des journalistes... intégrer des journalistes issus des quartiers populaires pour mieux comprendre les terroristes, je ne vois pas le rapport.
Peut-être pas pour mieux comprendre, mais en tout cas pour mieux recontextualiser, pour mieux justement lutter contre les clichés. C'est aussi ce que disait Jean-Paul Martoz.
Pour lutter contre les clichés, effectivement, mais pour traiter un acte terroriste, je ne vois pas ce que pourrait apporter un journaliste issu des quartiers populaires par rapport à un journaliste issu de la campagne. Enfin, je ne vois pas le rapport.
Éric Métou,
Je ne sais pas si vous avez le souvenir de cette émission de Bernard de la Villardière qui est allé tourner pour je ne sais plus quelle émission de reportage, de soi-disant reportage en banlieue, et qui a débarqué là-bas, grosso modo, avec trois caméras, des caméramans, une camionnette, etc., etc., qui est arrivé sans prévenir, sans avoir de fixeur sur place, etc., etc., qui, évidemment, s'est heurté à des gamins qui vont dire « Mais qu'est-ce que tu viens faire chez nous, quoi ?» Tu viens avec ta caméra, là, tu viens nous filmer. Et donc, ça, c'est le ton est monté, hein, c'est aussi ça, les banlieues. Et puis, je pense qu'il les a un petit peu cherchés. Et qui a filmé toute la scène, qu'il a diffusé à l'antenne, qu'il a mis sur les réseaux sociaux en disant « Bah, vous voyez bien, on peut pas rentrer dans les territoires de non-droit. Bah, vous avez bien vu, hein. Regardez, ils m'ont empêché de rentrer avec ma caméra. » Ça, d'une part, c'est dégueulasse. Et s'il avait eu dans son équipe des journalistes qui connaissaient un petit peu le terrain sur lequel il allait, bah, ça serait jamais arrivé. Et ne serait-ce que pour ça, c'est extrêmement important pour éviter ce genre de comportement que moi je trouve et imbécile et déontologiquement tout à fait méprisable.
Est-ce que c'est dans ce sens qu'il fallait comprendre vos propos, Jean-Paul Martoz ?
Oui, absolument, tout à fait, oui.
Frédéric Barrière, sur cette question.
Oui, là on assiste à une bêtise, effectivement.
Oui, mais une bêtise délibérée, c'est ce qui est pire.
Un acte, alors je sais pas, est-ce que c'est un peu du militantisme pour une cause ? C'est une provocation, en tout cas, c'est sûr. Voilà, non, on est là pour... on vient au début de l'émission. On est là pour informer, pas pour provoquer. Alors on fait des erreurs, on est imparfait, parfois on fait des maladresses, sans doute. Ça, je veux bien l'entendre, j'en suis bien conscient, mais voilà, on n'est pas là pour provoquer, on est là pour informer.
Ouais. Après, faire des émissions,
sur la diversité, une chose. Moi, je suis prof aussi dans une école, et le problème de la diversité, il n'est pas simplement celui des médias, il est aussi celui de la formation. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les écoles, les journalistes ont à peu près tous le même profil, hein, ils sortent de fac de lettres. maîtres de langue, de français, d'histoire, d'anglais, et ils sont déjà à ce moment-là très peu diversifiés. Donc le Bondi Blog, c'est un exemple formidable, hein. C'est vraiment, enfin c'est une des choses les plus intéressantes qui soit arrivée dans, à cet égard en France. Mais c'est un épiphénomène et ça suffira pas. Il suffit pas de dire il faut que les médias soient diversifiés. C'est bien plus complexe que ça.
J'ai démarré l'émission en évoquant le petit dialogue qu'il y a eu il y a quelques jours de cela entre Nicole Ferroni et Nicolas Demorand sur France Inter avec une vraie question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand il y a voilà un attentat terroriste. Alors là en l'occurrence c'était à New York, il y a eu 8 morts. On aurait pu en citer d'autres qui ont fait beaucoup plus de morts quelques jours auparavant. C'était à Mogadiscio en Somalie hein, où il y a eu plus de 300 morts. Mais avec l'idée de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut en faire une information presque comme les autres, ou bien est-ce qu'il faut complètement modifier les programmes, faire des émissions spéciales? Vous, quel est votre point de vue là-dessus, Frédéric Barrière? C'est au cas par cas qu'on juge de quoi de l'importance des morts, du terrorisme?
Un attentat, quel qu'il soit, que ce soit à Mogadiscio, on en a parlé sur France Culture, de cet attentat à Mogadiscio, y compris à New York, un attentat, c'est pas une information, c'est assez particulier.
C'est pas banal.
C'est pas banal, ouais. Donc, ouais, on informe.
Oui, mais on donne pas forcément exactement la même place à ces deux informations-là.
C'est des informations qui sont très importantes. Voilà, c'est des informations très importantes.
Mais dans ce cas-là, vous risquez d'avoir des journaux qui ne parlent que de ça, parce que des attentats, comme vous le disiez tout à l'heure, Frédéric Barrère, il y en a tout le temps et partout. Donc lesquels on garde et lesquels on écarte.
On ne fait pas d'édition spéciale, on fait des journaux, on consacre une grande partie effectivement à ces attentats. On n'est pas France Info, on n'est pas voilà.
On est le reflet du monde. Moi j'aurais tendance à dire que si les informations sont comme elles sont aujourd'hui, si les journaux parlent des attentats, si la télévision parle des attentats, si l'Express parle des attentats, si le Bondi Blog parle des attentats, c'est parce que le monde est fait comme ça et que des attentats il y en a partout. Et encore, je pense que effectivement sur Mogadiscio on n'a pas fait assez.
Je crois qu'il faut pas s'habituer à l'attentat. On peut pas s'habituer à ça. Voilà.
Leïla Koué.
Alors nous, le Bondi Blog, c'est un média particulier puisqu'on n'est pas du tout dans l'instantanéité. On n'a pas les obligations du clic, par exemple, du nombre de clics, ou on n'a pas de publicité, donc on n'a rien à gagner en fait là-dedans. On est plus dans notre traitement des attentats. Évidemment, on les a traités comme n'importe quel média, mais sous un angle particulier puisqu'on a pris le temps de revenir sur les lieux, on a pris le temps de retrouver des victimes pour recueillir leurs témoignages. Je pense par exemple à Saint-Denis qui a été également touché lors du 13 novembre. On a suivi de près ceux qui avaient été, ceux qui étaient dans l'immeuble lors de la chasse d'Abaoud, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont dû attendre de très très longs mois avant d'être relogés. Donc ça, par exemple, c'est un suivi qu'on a pu faire. C'est un exemple d'article qu'on a pu produire sur le Bondi Blog pour traiter des attentats. Donc c'est un angle particulier, c'est un angle qui est sur la durée, c'est un angle qui est sur le long et pas le court, puisqu'on n'est pas du tout dans l'instantanéité. Mais on préfère en tout cas donner la parole et consacrer nos colonnes plus davantage aux victimes qu'aux terroristes.
Jean-Paul Martoz, pour conclure, quelle est la grande leçon que vous tireriez du rapport que vous avez fait pour l'UNESCO? Donc je rappelle le titre, hein, qu'on peut trouver facilement sur Internet, « Les médias face au terrorisme, manuel pour les journalistes ». Il a été largement diffusé d'ailleurs ce document.
Oui absolument, il a été diffusé en plusieurs langues. Je l'ai présenté notamment dans sa version arabe et actuellement traduit en espagnol. Donc, moi, je dirais la leçon principale que je retire de tout ça, c'est la nécessité pour les journalistes réellement de se préparer, donc d'éviter ce que disait Christophe Ayad au début, en ouverture de ce manuel, c'est on improvise tout le temps. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se résoudre, que de plus en plus de rédactions font en sorte d'avoir des paramètres, des normes, des procédures qui permettent précisément d'éviter les dérapages dans lesquels on est tombé. Et deuxième chose, je pense qu'il est important de réaffirmer notre rôle de journaliste face à la prolifération des réseaux sociaux, face aussi à tous les acteurs. On a vraiment un rôle extrêmement important à jouer comme étant la référence de l'information, l'endroit où on peut aller pour être certain d'avoir une information rigoureuse et indépendante. Et c'est fondamental aussi de rappeler qu'en aucun cas le terrorisme ne peut mettre en cause la liberté de la presse d'informer.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Éric Métou, On peut évidemment lire l'Express, notamment l'express.fr dont vous vous occupez. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction. Merci Frédéric Barrère, directeur de la rédaction de France Culture, France Musique. Leïla Coel, rédactrice en chef adjointe du Bondy Blog, et Jean-Paul Martos. Donc je vous conseille de lire son rapport, Les médias face au terrorisme. Et désolé pour cette liaison téléphonique un petit peu compliquée ce soir. Merci également à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean Frédérics. Arnaud Laporte, la dispute, c'est à vous dans un instant.
Dans 3 minutes, on parlera de théâtre ce soir, mais de quoi parlera-t-on dans le Grain à moudre demain avec
Gardette ? De cyberharcèlement et de la façon de lutter contre.
Bonne chance.